Bonjour à tous. Traversier tout ce chapitre 17 du Sefer et Israël du Maharal, c'est le livre qui est consacré à Shavuot, c'est-à-dire au matin de Shavuot. Bien entendu, Shavuot, le jour du matin de Shavuot, et donc je vais tenir compte aussi de certaines indications que vous avez eues avec Michel, puisque c'est le problème de la relation de la Torah à Israël qui va être posé. Le jour de Shavuot, qui est le jour du matin de Shavuot, est relié. Pardon ?
Oui,
si tu veux les laisser sur le meuble, hein, ou à l'entrée. Mais simplement, demander à quelqu'un que chaque fois que quelqu'un rentre en silence, qu'il prenne ses feuilles et qu'on ne soit pas dérangé. Telle que vous avez donné, oui. Et donc, le jour de Shavuot, qui est le matin de Torah, est relié très étroitement à Pessah, qui est le jour de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas le sujet que je voudrais traiter, mais enfin, simplement en une phrase pour indiquer que, d'après l'ensemble des sources que nous avons à ce sujet, c'est les deux niveaux de la libération à la sortie d'Égypte. Après ça, on commémore la libération nationale, si j'ose dire, la libération de la nation, la libération physique, la libération, si vous voulez, de l'entité terrestre Israël, de la vie sur terre, dans l'histoire, le peuple. Alors qu'à Shavuot, l'achèvement de cette libération au niveau spirituel. Une des indications les plus données à ce sujet, c'est que dans les sacrifices qui commémore Pessah, Shavuot, l'offrande était l'offrande de l'orge. Alors que Shavuot, j'ai dit non, c'est Pessah. Alors qu'à Shavuot, c'est l'offrande de blé. Et le Midrash dit, quelle est la différence? Eh bien, l'orge, c'est la nourriture de l'animal. J'ajouterai, si vous voulez, c'est moi qui commande, commune, qui peut être commune à l'animal et à l'homme, alors que le blé, c'est la nourriture de l'homme. Il y a donc ces deux niveaux de la Géoula, ces deux niveaux de la libération. Il y a même beaucoup plus. Donc, toute l'année, tous les sacrifices, il est interdit que l'offrande du pain soit du pain levé. Toute l'année, c'est de la matza qui accompagne le sacrifice. C'est clair, du pain non levé. Sauf Shavuot, où il y a l'offrande du pain levé. Et ici, c'est pas le mot de symbole que je devrais employer, mais je n'ai pas d'autre en français. Le sens, si vous voulez, c'est que la sortie d'Égypte s'est faite avec précipitation. La pâte qui se préparait n'a pas eu le temps de lever. Vous vous rappelez? C'est clair? Vous vous rappelez ce que nous avons étudié à ce sujet, c'est que c'est point de départ irréversible, mais point de départ. Il faudra achever la sortie d'Égypte. Nous avons deux indications dans le récit de la Torah. L'indication historique, c'est que on commémorera le repas de la sortie d'Égypte avec du pain non levé. Pourquoi? Parce que il y a eu précipitation dans la sortie, hippazon en hébreu, de hippazon, okay. Et alors la pâte n'a pas eu le temps de lever. C'est ça qu'on commémore. Regardez, un peuple de 600 000 chefs de famille en train de préparer sa pâte pour sortir, provision de route, et combien il faut de temps pour que la pâte lève? Et des nuits, 20 minutes, ça suffit. Si la pâte a levé plus de 18 secondes, c'est Hamet. Vous voyez ce que je veux dire? Et de quoi on nous parle là? Il y a un rite qui commémore une situation très précise. Il y a, vous rappelez du rêve de Joseph? Quand Joseph voit les gerbes d'épis, quelque part le blé pousse. On ira là où le blé pousse pour faire des gerbes. Et pourquoi? Pour donner à manger à toute la terre entière. Alors on prépare un pain quelque part. Et alors on est allé préparer le pain. On ne nous a pas laissé le temps. La pâte n'a pas levé. Vous voyez quel est le sens de la commémoration? À Shavuot, la pâte aura levé. Donc c'est dans ce sens-là. Vous comprenez? Alors là, entre Pessah et Shavuot, il y a un décalage de 7 semaines. Mais en réalité, Shavuot, c'est le 8e jour de Pessah. Oui? À la fin des temps, alors on retrouve le rythme de Sukkot. À la fin des temps, Shavuot est vraiment le 8e jour de Pessah, et c'est pourquoi Matan Torah, 7 semaines après Yetziat Mitzrayim, la révélation de la Torah au Sinaï, 7 semaines après la sortie d'Égypte, mais c'est la suite de Pessah, décalée. Alors qu'à Sukkot, immédiatement le lendemain de Sukkot, c'est Simchat Torah. Vous voyez la différence des rites. Alors selon la Gemara, nous devrions commémorer Pessah avec la Sukkha. Puisque immédiatement à la sortie d'Égypte, il y a la marche au désert, et la Torah indique qu'en quittant l'Égypte, ils sont allés dans un endroit qui s'appelle Sukkot. Vous vous rappelez de ce texte? Vous rappelez de ce texte? Et qu'est-ce que représente la Sukkha? La marche au désert. Alors normalement, c'est dans la Sukkha que nous devrions commémorer la sortie d'Égypte. Mais c'est produit un décalage. C'est renvoyé à la fin des temps. Et très brièvement, parce que c'est quand même pas notre sujet, je veux dire ceci. Essayez de percevoir que dans la commémoration du calendrier de l'année juive, il y a deux années qui se chevauchent. Il y a une année qui commence à Tichri. Son sixième mois, c'est... À partir de Tichri, le sixième mois, c'est... Non.
Pessah.
Le sixième mois. Quelques... Adar, pourrir. Okay. Oui. Vous comprenez? Le septième mois, à partir de Tichri, c'est Nissan. Si nous prenons le cycle de l'année, alors nous voyons l'année qui commence à Tichri arrive à son apogée au sixième mois. Et ensuite, elle redescend jusqu'au douzième et elle disparaît pour laisser la place à une autre année. Mais voilà ce qui se passe dans le calendrier hébraïque. Au moment où l'année qui commence à Tichri arrive au sixième mois, elle est prise en relais par une autre année qui commence à Nissan et qui a son sixième mois à... Elul. Très bien. Et ensuite, Tichri, Nissan, c'est-à-dire nous n'avons pas une année qui redescend et qui se ferme sur elle-même, nous avons une ascension perpétuelle. En réalité, il y a quatre années, je ne vous parle que de deux. Okay? Alors, pour simplifier, mais c'est le même principe. Qu'est-ce que c'est que ces deux années qui se prennent l'une l'autre en relais? Eh bien, l'année de Tichri sont logés les événements qui concernent l'universel de l'histoire humaine, le monde entier. Tichri, c'est quoi? La création du monde. Tichri, c'est quoi? Le jugement de l'humanité. Vous voyez? C'est l'année universelle. Nissan, c'est l'année spécifiquement juive, qui commémore les événements de l'histoire d'Israël comme communauté spécifique reliée à l'universel. Vous comprenez? À Nissan, c'est la sortie d'Égypte. C'est notre commencement du monde. Oui. Et alors, tous les événements qui ont une portée universelle sont commémorés dans l'année de Tichri, à partir de Hadar en filigrane, camouflé derrière les événements de l'année de Nissan. Inversement, tous les événements qui commémorent l'histoire spécifique d'Israël sont dans l'année de Nissan, à partir de Elul, camouflé dans les six mois de l'année de Tichri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Vous voyez ce fait de charnière de relais? Ça veut dire que, et c'est une chose extraordinaire, nous avons quatre Rosh Hashanah, disons deux, mais aucun fin d'année. Il n'y a pas de 31 décembre. Dans le... L'année ne finit pas. Le temps ne finit pas. Oui, il y a une dimension de temps éternel. Alors que dans l'année Goy, c'est un temps cyclique. Je veux dire que l'année s'achève, Vegamarnou, elle disparaît, elle est remplacée par une deuxième année. Et le Midrash qui dit, ça c'est le temps des Goyim, c'est le temps de l'année solaire. Vous connaissez ce Midrash? Pourquoi le temps des Goyim est comparé au temps de l'année solaire? Eh bien, parce que c'est cela la loi des civilisations humaines, comme l'année solaire, commencement, apogée, fin. Et puis, elle quitte la scène de l'histoire, elle est remplacée par une autre civilisation qui a... Nous avons parlé de cela à Hanouka, je suppose, peut-être pas. Mais vous voyez, le même Midrash dit, alors que le temps d'Israël, c'est le rythme de la lune, qui se renouvelle perpétuellement à travers les années solaires qui se succèdent l'une à l'autre et disparaissent. La comparaison que le Midrash nous suggère est très importante. Ça veut rien. Je vais vous parler de ça un peu. Je crois que c'est important. Je pense reprendre ce thème dimanche après-midi, mais comme ça vous sera un peu préparé. C'est ceci. Il faut d'abord prendre conscience que dans la manière d'être, de cette manière d'être homme qui s'appelle Israël, il y a des lois. Je veux dire, il y a des principes qui régissent cette histoire d'Israël. C'est pas l'arbitraire du non-conditionnement. Mais c'est pas les mêmes conditionnements que les lois qui régissent les sociétés humaines autres. Vous comprenez, on bute toujours sur ce problème. On n'arrive pas à rendre compte de la réalité de la société juive et d'Israël à la manière dont on rend compte de l'histoire de n'importe quelle société. Et l'erreur, c'est de faire cette analogie, de projeter sur l'histoire d'Israël les catégories qui vont pour l'égoïsme. Par exemple, je reviens à la conférence de M. Ansel l'autre soir. Vous avez remarqué comment nous avons été gênés par des questions de vocabulaire. Vous avez remarqué cela. Pourquoi? Parce que le vocabulaire véhicule des catégories adaptées, aptes, appropriées aux sociétés humaines en général, mais qui ne mordent absolument pas sur la réalité juive. Par exemple, le conflit, sommes-nous nation ou religion? Il n'y a pas où poser ce problème-là dans l'identité juive. Ou énormément d'autres choses. Oui.
Ça m'amène à poser une question sur un des textes que vous avez donné.
Attends, tu veux, je finis l'analyse, note la question.
Mais qui est sur la...
D'accord,
la
mais ça fait rien. J'en tiendrai compte après. Attendez une minute, laissez-moi finir le paragraphe. C'est ceci. Je vais prendre un verset de l'Ecclésiaste qui va nous éclairer le problème. Quand, par exemple, donc, la tradition nous dit il y a en Israël une dimension d'éternité, alors que dans les civilisations, il y a une histoire qui obéit à une règle très précise que je vais vous appeler celle de l'année solaire, Je ne sais plus qui a dit, je le cite chaque fois à ce moment de l'analyse, mais j'oublie, je ne sais pas si c'est Peggy, Malraux, Mallarmé, non, Mallarmé sûrement pas. Nous autres, civilisation, Valérie. Hein? Nous autres, civilisation, nous savons que nous sommes mortels. Eh bien, ils ont 1000 ans pour savoir. Okay? Mais c'est ce que le Midrash dit.
D'ajouter maintenant, comme si le moment de la conscience avait son importance.
Ah ben, mais je crois, et je crois d'ailleurs, je vous donne mon expérience de petit étudiant à Paris, à la Sorbonne, il y a longtemps. Je ne sais pas quand, ça me ferait des cheveux blancs. Moi j'ai pris conscience de cela, que la civilisation occidentale qui nous fascinait quand on habitait de l'autre côté de la Méditerranée, et quand on est arrivé sur place, on s'est dit, bon, eh ben ça va, c'est aussi l'égoïsme. On croyait que le Messie était arrivé en France. Oui, à peu près, il y a des gens qui continuent à le croire. Mais j'ai perçu ça quand j'ai étudié en littérature Pierre Loti, Les Désenchantés. Oui, à peu près cette espèce de conscience du désenchantement qui apparaît là, il dit ça y est, ça c'est la mort, ça c'est le signe de la mort, ils sont en train de mourir. Vous voyez, oui, c'est le... Et si on... c'est clair. Et, bon, c'est une agonie pénible, mais si on prend conscience du thème fondamental de la littérature de notre civilisation contemporaine, à travers tous ces courants, c'est le thème de la désespérance. C'est une civilisation... qui n'a ni vieillard, ni jeune, dans le sens naturel du terme, sain, S-A-I-N du terme. Il n'y a plus de jeunes gens, il n'y a plus de vieillards. C'est une civilisation inquiétante. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieux. Enfin, des vieux, il y a. Mais vieillard, ce n'est pas vieux, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pourquoi il y a une telle désespérance dans la jeunesse occidentale, qui est d'ailleurs un signe de bonne santé. Ça veut dire l'organisme réagit. Et je peux vous donner d'ailleurs mon témoignage personnel de mouvement de jeunesse, enseignant, tout ce que vous voudrez. J'ai traversé au moins 15 générations de jeunes depuis le temps de... Exactement, j'ai commencé avant la guerre mondiale. Mais enfin, disons, depuis le temps, la fin de la guerre mondiale, vous voyez, tout ce temps-là, j'ai vu les générations de la jeunesse juive se succéder. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses par cette expérience. Mais en particulier, je peux vous dire une chose, que c'est de meilleure qualité de génération en génération. C'est pas pour vous faire un compliment, pour vos enfants, et c'est pas vrai que des juifs, c'est vrai des goïmes aussi. La jeunesse contemporaine est de très bonne qualité. Et alors elle réagit en étant malade. Parce qu'il manque une espérance. Ou elle se cherche l'espérance d'autres sociétés. On se greffe sur les sociétés qui ont leur avenir devant. Alors qu'en Occident, on cherche son avenir dans le passé. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Bon. Et alors, que disais-je? Oui. Et alors, voilà ce que dit le Midrash. Les lois qui régissent les sociétés d'Elohim, c'est les lois du temps du soleil. C'est-à-dire, cette espèce de cycle que vous avez en mythification dans la mythologie chrétienne. Okay? Vous savez très bien que la mythologie christique, c'est la mythologie du soleil. Bon. Et, je crois d'ailleurs, le recommencement d'année, c'est la Noël, qui veut dire étymologiquement le nouvel an. Et alors, le Dieu qui naît, et puis finalement qui meurt et qui ressuscite, oui, c'est ce mythe-là, c'est le du temps solaire. Et alors, pardon ? Pour les goïmes ?
Oui.
Non, nouvel an, c'est Noël. Oui, mais il ressuscite. Non, à Pâques, il ressuscite. Oui. Bon, mais c'est ce mythe de la perpétuelle. C'est plein de sens. Païen, mais c'est plein de sens, ce thème-là. Mais c'est pas notre sujet. Vous avez étudié, par exemple, le détail du Shulchan Aruch de la liturgie catholique. Et bien, vous apercevrez que le moment de l'élévation de l'hostie pendant la messe doit être exactement le moment où le premier rayon du soleil touche le vitrail de la cathédrale qui est en face du prêtre. C'est un rite païen solaire, dans tous les détails. Bon. Si vous voulez, un jour, je vous ferai c'est pas à moi de vous enseigner ça, mais je vous ferai un cours sur le christianisme, vous allez voir ce qu'il y a derrière. On ouvrira parole d'évangélique.
Oui, mais il est né que très très tard, parce que l'élévation de la liturgie catholique a été une réaction contre les protestants qui niaient la présence réelle, et à ce moment-là, les prêtres ont reçu la consigne d'élever le style pour la montrer. Vous voyez, là voilà, c'est le 15e siècle.
C'est pas ce que je dis. Je dis que à quel moment? C'est le moment où le premier rayon du soleil, Alotachaha, arrive sur le vitrail. C'est pourquoi d'ailleurs l'architecture des églises, des cathédrales est telle qu'on puisse recevoir ce rayon de soleil en son heure. Non mais écoutez, ça mérite d'être étudié sur le texte. Par exemple, je vais vous dire une chose et puis on referme cette parenthèse. J'ai réussi le tour de force cette année, ce trimestre, de ne pas parler du christianisme. On verra ça dimanche. Bon. Mais je veux dire ceci, c'est que les chrétiens ont longtemps dit que les juifs ne savaient pas lire la Bible. Il y avait un voile, le voile de la synagogue, qui cache la Torah, enfin ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, aux juifs. Et qu'il fallait que les chrétiens nous apprennent à lire la Bible. Comme on disait en arabe, bien pour ma grand-mère, je vais tenir la vie de mon grand-père. En réalité, ce qu'il faut découvrir, c'est que c'est tout simplement l'inverse. C'est que les chrétiens ne savent pas lire les évangiles. Et que s'ils ne lisent pas sous la conduite d'un juif qui leur décrypte qu'est-ce qu'il y a écrit là-dedans, ils ne savent pas ce qu'il y a là-dedans. Je pense que c'est clair, je vous dis ça comme ça abrupt. Okay. Et il y a d'abord un langage astrologique dans le récit religieux de la Passion qu'il faut d'abord décrypter. Ça a été écrit par des juifs de génie, parce que pour être faussaire à ce niveau-là, il fallait être un juif de génie. Il y a que des juifs qui pouvaient faire ça. Vous voyez, c'est une espèce d'usurpation d'identité. Les Romains qui arrivent en Judée et qui disent c'est nous Israël. Bon, ça il faut le faire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Comme disait Rabbi Astérix, ils sont tous des Romains. Et alors, il faudra se demander un jour, mais qu'est-ce qui est arrivé aux Romains de se prétendre être Israël? Qu'est-ce qui les travaille? Qu'est-ce qui se passe? Ne croyez pas que ces choses énormes, c'est des inadvertances de l'histoire. Mais c'est un autre sujet. Et alors, il y a d'abord un langage astrologique qu'il faut décrypter. Et lorsque d'ailleurs un chrétien lit les évangiles en compagnie d'un juif de l'époque des évangiles, c'est-à-dire par le court-circuit de la mémoire, et il faut connaître le langage familial juif de ce temps-là pour comprendre qu'est-ce que veulent dire les mots qu'on emploie. Okay. Alors, à ce moment-là, il commence à comprendre en quoi il croit. Et que, comme je l'ai dit quand j'ai fait l'étude de Mythe et Midrash, certains d'entre vous étaient là peut-être, je suis persuadé qu'un chrétien de bonne foi peut épurer sa foi, garder sa foi intacte, mais comprendre en quoi il croit en se débarrassant de tout l'appareil païen mythologique que les siècles ont mis là-dessus, mais dès l'origine. Okay. Et de savoir quelle est cette foi chrétienne et de quoi il est parlé. Mais ce que je dis un peu naïvement, c'est qu'il n'y a que des juifs qui peuvent décrypter ça pour les goïms. Vous comprenez, il y avait un jargon familial que les protestants appellent patois de Canaan, je ne sais pas si ça se dit encore comme ça, okay, que seuls les juifs peuvent comprendre. C'est nos affaires de famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ce vocabulaire est d'abord astrologique. Par exemple, il y a beaucoup de chambres dans la maison de mon père. Ce mot de maison a un sens astrologique. Okay. Le sauveur est né de la Vierge. Ça veut dire d'abord le signe du zodiaque, la Vierge.
Okay. Les chrétiens le savent tous.
Maintenant. Okay. Ouais. Mais non, il y a toujours eu les ésotéristes qui m'ont su. Mais ça s'est tellement occulté. Alors il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit, et très rapidement on s'aperçoit qu'il s'agit d'un rituel de la religion solaire. Bon, je ferme la parenthèse. Et alors que le temps d'Israël, c'est le temps lunaire. Notre calendrier, c'est la relation entre la lune et le soleil, c'est la relation entre Israël et les nations, parce que la lune seule, ça c'est l'islam, le soleil seul, c'est la chrétienté, alors, vous savez, vous comprenez, je veux dire, alors que le calendrier précis d'Israël, relation entre le temps de la lune et le temps du soleil, ça, c'est le calendrier du monothéisme. Abraham a compris qu'au-delà de la lune et du soleil, il y a un principe unique. Son fils Ishmaël n'a repris que la lune. Esav n'a repris que le soleil. C'est Jacob qui a continué le monothéisme. Je referme cette parenthèse, mais pour dire ceci, quoi, d'ailleurs, de quoi j'étais parti? Ah oui, les deux années, les deux calendriers. Nous avons un calendrier qui commence à Tishri et qui commémore les événements à l'échelle universelle. Un calendrier qui commence à Nissan et qui commémore les événements à l'échelle spécifique de l'histoire d'Israël. Alors, vous voyez que, à la sortie d'Égypte, on aurait pu espérer que les deux calendriers coïncident, s'unifient, et on aurait commémoré Pessah à Sukkot, comme il faudrait faire historiquement. Okay? C'est clair. Mais voilà que, bon, selon les sources, la faute du veau d'or a tout cassé, mais les deux calendriers se sont décalés. Alors, nous avons Pessah d'un côté, qui n'est encore que dans l'histoire spécifique d'Israël, Sukkot, qui est la fin des commémorations historiques d'Israël dans le 7e mois à partir de Nissan, vous voyez Tishri, 7e mois à partir de Nissan, mais qui vient s'articuler avec le premier mois de Tishri, et je dirais sur quel jour exactement, et alors Sukkot va se ranger dans l'année universelle. À la fin des temps, ça va s'unifier. Ça y est, c'est clair. Et une minute, Shavuot sera le huitième jour de Pessah dans Soukhot. Bon, qu'est-ce que je devais ajouter juste là? Ah oui, comment ça s'articule, le calendrier de Nissan avec le calendrier de Tishri? C'est le jour de Rosh Hashanah Rabba, qui est le septième jour de Soukhot et qui est l'achèvement de Kippour. Vous voyez ce que je dis pour ceux qui sont déjà un peu au courant, okay? Le jour de Rosh Hashanah Rabba est simultanément les deux. Là, le lendemain, c'est Simchat Torah.
On termine la Torah et on commence
bien. Exactement, oui.
Oui, je voudrais dire simplement quelque chose qui n'est peut-être pas très cachère, mais qui donne une idée des interrogations qui se posent à droite et à gauche. D'abord, à propos du soleil et de l'astrologie, d'une manière, de l'astronomie, enfin, les liens sont évidents, il faut remarquer que notre ciel est peuplé de noms de dieux grecs, n'est-ce pas, et romains. C'est-à-dire que les scientifiques appellent les planètes Neptune, Pluton, etc. etc. Donc, et que le Soleil... alors, il y a une question qui est posée et qui est peut-être un peu... qui a l'air un peu comme ça énorme. C'est pas évident hein, que le Soleil soit le centre du système solaire. Ça, c'est un...
Qui a dit ça?
C'est un, oui, c'est un postulat de la science, mais étant donné que dans l'espace, oui, les mouvements sont relatifs...
Exactement, il y a un machin, ça s'appelle donc, la zizi, je sais pas quoi, là, j'ai oublié.
C'est ça, c'est ça, donc c'est pas sûr. Deuxièmement, à propos de Hegel Azav, justement, il y a un lien qu'on peut faire, et c'est là que je dis c'est peut-être pas cachère. Hegel Azav, étant donné que Aaron a dit à Moshe, moi j'ai mis l'or et puis il en est sorti ça, et Hegel, ça peut se traduire par un cercle. Donc Hegel Azav, ça peut être le cercle d'or. Alors, c'est là que je dis avec toute réserve, mais quand même, il y a peut-être un lien à faire entre tout ça, à propos justement, puisque vous avez dit que la faute du veau d'or, c'est ce qui a provoqué un décalage du calendrier, si on pense qu'ils sont sortis de l'Égypte avec le soleil, et que ce Hegel Azav, qu'on comprend toujours comme le veau d'or, et qui est peut-être, mais enfin, il y a peut-être une autre lecture possible.
Très bien, c'est pas du tout pas caché. Simplement, je préciserai qu'il faut réfléchir un peu sur le problème du cercle, il y a quelque chose d'important, mais c'est que le Hegel Azav, c'est l'espèce de statue qui représentait le signe du zodiaque correspondant. On y est en plein. Ils sont sortis du bélier, mais cette hérésie-là consistait à rester fidèle au taureau. Je vais vous dire ça autrement. Le jour de la sortie d'Égypte, c'est le jour où le monde, notre monde, est passé du signe du taureau au signe du bélier. Le jour même. De la même manière que, dans les temps contemporains, ne cherchez pas l'année précise, mais enfin c'est aux environs des années 50, je veux dire le jour précis, le monde est sorti du temps des poissons pour entrer dans le temps du Verseau. Pendant ce temps, les Juifs reviennent à Jérusalem. Mais ça veut dire l'église des poissons en Gamarnou, finir l'être, okay, c'est la fin de l'église des poissons, et on va rentrer dans le temps du Verseau. Est-ce que ça vous dit quelque chose, tout ça? Okay, bon, les chrétiens le savent aussi, que c'est fini du temps de l'église des nations. Et alors, à un certain moment, on est rentré dans le signe de la Vierge. C'est ça que je voulais dire. Alors, les hommes de ce temps ont dit... Le Sauveur est né de la Vierge. Alors les Béotiens ont cherché de quelle Vierge il est né. Ça pourrait être une juive. Allez, comment on passe. Oui, jusqu'à des Vierges. Et ça, c'est absolument exact. Je vais vous dire quelle est la règle de la tradition. Tout ce que disent les tenants de l'astrologie, etc., etc., qui a un conditionnement qui nous vient du ciel, c'est vrai. C'est vrai. Ça joue, ça existe et ça joue. Mais la position de tous les paganistes, c'est de s'asservir à cela. Et c'est ça la religion. La position de la Torah, c'est de briser ce conditionnement, et c'est ça la religion. Vous voyez, c'est différent comme le ciel et la terre. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, minute, les rabbins ont donné l'autorisation aux sages, c'est-à-dire à leurs élèves, d'étudier théoriquement ces choses-là. Mais il y a interdiction de s'en servir pratiquement. Ça y est, c'est clair. Bon. Alors ne vous étonnez pas que vous trouviez parfois, même dans des sources accessibles, des allusions à ces choses-là. C'est que ces réalités-là sont oubliées des modernes. Mais et nous ne savons plus comment ça fonctionne en langage de science moderne. Nous avons le langage traditionnel. Mais très certainement un jour, la science qui découvre, la pensée scientifique, qui découvre les phénomènes les uns après les autres, va redécouvrir ces réalités-là. Et peut-être ça expliquera beaucoup de choses et ça aidera les médecins à guérir beaucoup de choses. C'est certain. Okay. Oui. Vous voyez qu'on a une fatalité. Le monde entier nous empêche de rentrer dans le Maharal. Alors vite, on rentre dans le Maharal.
Vous nous dites hier qu'on allait, qu'à notre époque, il y avait des mécanismes qui se déclenchaient malgré nous et qu'on allait être obligé d'être libre.
Attends. Je parlais de quoi quand j'ai dit ça? Oui,
peut-être. L'entrée dans les temps missiles. Enfin, c'est-à-dire...
Non, je parlais du problème du mérite à l'échelle individuelle. C'est hier que je parlais de ça. Oui. Et j'ai dit qu'on a bien l'impression que les événements... Les événements marchent, fonctionnent, et que on a déjà passé le temps où on peut obtenir que l'événement arrive à travers le problème, la catégorie du mérite individuel. Okay? C'est ça que j'ai dit. Écoutez, essayez de comprendre l'histoire juive depuis quelques générations. Des événements massifs nous affectent et l'individu n'y peut rien. Ça s'est mis en marche. C'est ça que je voulais dire. Okay? Si vous voulez, le signe que c'est bien l'événement, c'est l'événement lui-même. Si on arrive à voir sa massivité, son ridouche. Alors voilà ce que je voulais dire. Et puis on arrive à propos de Shinui et ridouche, et puis on enchaîne. Voilà. Le principe de modification. Le temps modifie. Il est très différent dans la catégorie de l'année solaire, qui s'appelle en hébreu Shana, relié avec Sheni. L'année solaire Shana et Shniya, elle est deuxième par rapport à la première. Et là, c'est la racine, les chanotes, qui donne le mot shinui, le changement par modification où on devient autre. Vous voyez ? Ça, c'est le temps qui est plus fort que l'homme et qui arrive à assassiner la vie. Ça, c'est le temps de shinui, le changement. Alors que le temps de la lune, c'est une toute autre racine, chidush, hodesh, hadash. Et hadesh, ça veut dire s'être modifié, mais en restant le même. Vous voyez la différence ? Alors, c'est pourquoi celui qui a la capacité du chidouche est éternel, et celui qui n'a pas la capacité du chidouche tombe dans la dégradation du chinouille. Voilà la différence. C'est clair ? Qu'est-ce que disait le verset de l'Ecclésiaste, tu veux bien ? En hadash tachat ha-shemesh. Pourquoi ? Parce que hadash, c'est tachat ha-yareh. Okay ? Pas chou. Ça veut dire, il n'y a rien de nouveau dans le sens de chidouche dans ce temps sempiternel du soleil. Ça y est, c'est clair ? Bon. En d'autres termes, ça veut dire qu'il ne se passe rien chez les goïms. Parce que le soleil, c'est le goïm. El hadash tachat ha-shemesh, il ne se passe rien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien ? Un tas de choses. Okay. Mais c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Okay. Ça veut dire que vous avez vécu une civilisation, elle va changer de style, elle va devenir autre. Mais c'est la même chose qu'il y a. Et les mêmes mythes, et les mêmes désespérances à la fin, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de hadash. C'est-à-dire, cette chose de chidouche. Regardez la précision de... il faut prendre les choses à la lettre. Okay? Qu'est-ce qu'a dit l'Ecclésiaste ? Dans le monde du soleil, il n'y a rien de nouveau. Alors, à quoi sert l'effort de l'homme, le labeur humain ? Tout vient de la source et va à la mer. Et cette désespérance, oui. Mais c'est ça la civilisation extérieure, qui n'a pas été vitalisée par le chidouche. Okay? Comment commence la première loi de la Torah à la sortie d'Égypte ? À Hodé Chazé Lachem Rosh Hodashim. Vous commencez par le chidouche. Ça commence par le chidouche. Vous comprenez la différence ? Alors, la société juive est atteinte par deux pièges. Le chinouille, c'est la catastrophe. Okay ? Le chinouille, changer, on ne change pas. Chinouille, assour. Et alors qu'on va rester statique, sclérosé, comme disait. Non, chidouche. Okay ? Alors, premier danger, c'est le chinouille. Vous voyez, en français, il y a un terme que je voudrais citer là de nouveau. Le terme de altérité, ça veut dire la chose autrui. De ce même terme, altère, vient aussi altération. Et devenir autre en étant altéré. Est-ce que c'est clair ? Tandis que, et ça c'est avec Sheni, dualisme, etc. Alors que Hodesh, le Hadesh, le Hidush, l'autre sens de se modifier dans le renouvellement, Tit Hadesh, Kanesher, Neoraïchi, eh bien ça c'est Echad, qui a dans la racine Had, donc. Les Hadesh. L'autre, c'est Sheni. Bon, je vais faire ma parenthèse. C'est de la grammaire un peu farfelue, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas de la grammaire, mais c'est plus important que la grammaire. Pour comprendre ce qu'il y a dans les mots. Il y a dans l'identité Israël le secret du chidouche. Et alors, les deux pièges, c'est ça. Celui qui tombe dans le chinoui, eh bien, il va suivre le cycle qui va de la naissance à la mort, et puis c'est fini. Les sectes vont disparaître. Vous voyez le problème ? Comment on se recode là sur notre. Et le deuxième piège, c'est de refuser le chidouche. Celui qui refuse le chidouche va devenir momifié. Or, la société juive est tirée par ces deux courants. Je ne veux pas du tout identifier, mais vous donner simplement des perspectives. Une perspective comme le judaïsme réformé, ça c'est chinouille. Vous voyez ce que. Ça passera avec la mode. La tendance ne passera pas. Mais les modulations passeront. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a rien de plus démodé que quelqu'un qui cherche à se mettre en phase avec la mode. Demain, il est démodé. Et demain, hier, il était déjà démodé. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Et alors, le deuxième danger, c'est ceux qui refusent le chidouche. Mais vous voyez à quel point c'est différent, chidouche et chinouille. Okay ? Celui qui refuse le chidouche, bon, eh ben, ça peut être la tendance, je ne sais pas, orthodoxe, lorsqu'elle s'enlise dans dans son propre passé, la branche cadette du judaïsme, la rue Cadet, vous savez. Non, non, c'est une blague. Hein. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, les uns et les autres, d'ailleurs. Mais là, vous voyez à peu près comment ça va. Il y a deux dangers qui guettent la société juive. Accepter le chinouï ou refuser le chidouche. C'est deux dangers très différents, mais ça, c'est ça qui fait les sectes. Et puis les sectes passent, finalement, elles sont mortes dès qu'elles sont fondées. Elles sont mortes le jour de leur naissance. Et c'est pourquoi il faut se mettre là où sont les pharisiens. C'est-à-dire, ni les uns ni les autres, d'ailleurs.
C'est pour ça que les rabbins font des chidouchines, peut-être ?
C'est pour ça qu'on appelle ça chidouche. Quand c'est un vrai chidouche, c'est l'éternité de la Torah qui continue. Quand c'est un chinouï, c'est gamarnou. On a fondé une religion païenne. Vous voyez le problème ? Et alors, vous allez me dire, où est le critère ? Mais c'est ça la chokma. C'est ça la sagesse. C'est de savoir, et nous recevons ça par tradition. Ne croyez pas que l'intelligence de X va le rendre chacham. Qu'est-ce que c'est un chacham ? C'est un talmid chacham. Je vous dis souvent, n'oubliez pas. Qu'est-ce que c'est un maître ? C'est pas quelqu'un qui a des élèves. Ça peut être un instituteur. Okay. Qu'est-ce que c'est un maître ? C'est quelqu'un qui a eu un maître. Rien à voir d'autre. Hein. Vous comprenez le problème. Et maintenant, les dictionnaires, ça c'est quand on n'a pas le temps, alors on s'aide avec des dictionnaires. Mais la chokma, elle n'est pas dans les dictionnaires. Ça y est, c'est fait. Théorie. Très bien. Et alors, si on revenait au Maharal, bien que c'est plein de mille questions, vous voulez encore demander quelque chose ? Rapidement. Écoutez, ça veut dire... Essayez d'imaginer ce geste d'existence. Et je vais vous dire la règle. Il y a le monde, c'est un conflit entre le temps et la vie. Alors quand c'est le temps qui triomphe, il y a chinouï. Quand c'est la vie qui triomphe, il y a chidouche. Avec le chidouche, je suis plus fort que le temps. Et c'est ça le miracle d'Israël. Nous avons été plus forts que le temps. Si nous avions laissé le temps jouer, nous serions comme les autres peuples dans des musées. Et nous serions sujets de thèse, de synthèse, mais de thèse. Vous voyez ce que je dis ? Mais nous ne sommes pas des sujets de thèse. Ce que je disais souvent à mes amis chrétiens, assez de parler comme nous, de nous comme des personnages de romans juifs. Nous ne sommes pas des personnages de romans juifs. Nous sommes des existants, le peuple juif dans l'histoire. Ça panique le monde entier. Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui a vaincu le temps ? Et autre chose, Ken ? Alors, ils ont tellement peur qu'ils nous expliquent d'être comme eux. Et les juifs, qui sont toujours candidats à la séduction, ah oui, nous sommes comme les autres. On n'en pense pas moins, mais on est comme les autres. Et c'est les autres. Si nous étions comme les autres, il y a 3000 ans que nous serions dans les caveaux. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez à quel point, chaque fois qu'une synagogue arrive à ne pas ressembler à une église, sa vie, dès qu'elle commence à ressembler à une église, c'est un cimetière, un caveau. Vous rentrez à la rue de la Victoire, vous dites, oui, le curé. Vous avez le problème. C'est tout de suite l'ombre tamisée de la sacristie synagogale. Et comment on peut faire la prière dans un endroit pareil ? Vous voyez, comme je dis souvent, on ramène Paris. Paris vaut bien une messe. Comme je dis souvent, moi, je rentre dans. J'ai jamais pu prier dans une synagogue consistoriale. Alors, je rentre, puis. Je proteste. Ça me rend protestant. Alors, ça vous a aidé un peu à comprendre ?
Il y a trois choses. On a fait le rabbin de mer, un capital pour un créateur, un père et un maître.
Oui. Donc, Ken, on y arrive. Ah, si vous voulez, alors on va prendre. Donc, Maasé de Rabbi Eliezer, très rapidement. Et on nous raconte une scène de Seder de la Gada de Pessah au temps de Bnei Brak, c'est le temps de Rabbi Akiva, Bar Kokhba, vous rappelez. Alors, voilà ce que dit le texte. La référence à la sortie d'Égypte, c'est une chose tellement importante que voilà ce qui s'est passé. Ne croyez pas que c'est seulement ceux qui ont à apprendre quelque chose qui doivent étudier, parler et étudier de Vechol Amarbel et Saper du Tzadn Israël, Maharezé Meshubah. Les plus grands des Talmidei Chachamim. Un exemple, les cinq plus grands maîtres d'Israël étaient dans le même Seder. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on fait comme miracle. Cinq chefs de Yeshivot, ensemble, On n'a jamais vu deux chefs de yeshiva ensemble. Cinq ensemble. Parce que vous savez ce qui nous arrive. C'est qu'ils sont tous Gdolim, ils sont tous Kdoshim, ils sont tous Tzadikim, ils sont tous Horim, ils ne s'aiment pas entre eux. Alors, hein? Oui, c'est une des choses que le Messie aura à résoudre.
Vous êtes quand même, vous êtes un petit travail.
Mais le jour où vous verrez cinq rabbins faire le CDR ensemble, vous direz ça y est, ça descend. Hein. Alors là, c'est un texte. Quand les frères de Joseph ont reconnu leur faute, ils ont dit Manedabe ou Manistadak. Ou Manistadak. On prend chaque lettre du mot, le Midrash nous dit Kulanu Nehemanim, Kulanu Tzadikim. Et où est la faute? Mais oui, ils ont toutes les qualités, mais ils n'aiment pas leur frère. Où est le problème? Et alors, on revient à notre question. Et ils ont étudié, ils ont parlé de la sortie d'Égypte, Koloto Halayla, toute cette nuit. J'ai grandi toute cette nuit-là, c'est-à-dire elle est connue d'autre part. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Koloto Halayla. Chat, la nuit du Seder. Meilleure chose. Ah, je sais pas où, Tamideh, Vermoulahem. Jusqu'à ce que leurs élèves sont venus et leur ont dit, rabotez-nous, il y a un moment de nos maîtres, le temps de la prière du matin est arrivé. Il y a plus, beaucoup de questions là-dedans. Si déjà on a cette chance qu'il y a cinq rabbins ensemble, leurs maîtres restent dehors, leurs élèves restent dehors. Oui, je ne comprends pas ça. En général, dans le temps traditionnel, quand un maître reçoit un autre maître, les élèves taillent la place pour s'asseoir par terre et écouter qu'est-ce qu'ils se disent.
Oui, ils sont hors de la discussion.
Attendez, on va, je vais vous donner la raison historique. Et puis, deuxièmement, que c'est cette chutzpa. Imaginez les élèves venir dire à leur maître Rabbi, Shahri, Mincha, Arbi. Je vous racontais d'ailleurs. C'est plein d'invraisemblance tout ça. Je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie il y a très très longtemps. On m'avait demandé d'aller à Bruxelles pour participer à un colloque sur religion, pas religion, enfin oui, les sujets classiques. Et puis j'avais comme interlocuteur un des plus grands philosophes juifs de Bruxelles, son nom m'échappe, un très grand spécialiste de la logique de la morale, ça en reviendra, mais vraiment qui est très connu, hein. Et un athée, quoi, complet. Et alors pendant 2 heures, on s'est empoigné. Verbalement, jusqu'à ce que j'ai pu, au bout de 2 heures, retourner la salle. Parce qu'au début, moi, j'étais un espèce d'obscurantiste du Moyen-Âge, vous voyez, le genre, un juif à Tfilin, qu'est-ce que ça peut être, ça va? Surtout pour la mentalité belge. C'est tout juste qu'ils m'ont pas dit, sois belge et tais-toi. Et alors là... bon, finalement, la salle a compris que la Torah, ça existe, et que c'est pas des choses obscurantistes, moyenâgeuses. Et le juif, là, le philosophe, non seulement il m'a remercié, on est tombé dans les bras, tout. J'étais en âge. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais en âge. Alors je vois un commando de barbu qui arrive du fond de la salle. Je me suis dit, ils vont m'apporter un verre d'eau. Pas du tout. Mincha, 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 vous avez besoin de quelqu'un pour finir. Non, moi, non, rien du tout. Les juifs, il faut se les faire. Et alors, bon. Ça m'est resté dans la mémoire. Mais il y a des choses pires encore. Alors, voilà comment on explique. En fait, c'était l'état-major de la résistance qui était en train de préparer le soulèvement contre les Romains. Ils faisaient leur sortie des juifs. Vous comprenez? Et les élèves faisaient le guet dehors. Voilà, ça a été clair. Et alors, ils sont arrivés. Et peut-être que le rabbin, il ne sait pas quelle heure il est. Et ils étaient dans la caverne et les autres dehors en train de faire le guet. Voilà, vous voyez comment c'est écrit, qu'il faut décrypter ces choses-là. C'est codé. Et alors, qu'est-ce que c'est? Kriyat Shema Shel Arvit. Là, je vous donnerai un... Chidush. Au Kriyat Shema de Arvit, on rentre dans la nuit. Kriyat Shema de Shachrit, on sort de... C'est celui de la délivrance, le Kriyat Shema du matin. Celui de la fin des temps, de l'exil. Et alors, il y a ici quelque chose de très important. Les élèves sont venus dire à leur maître, encore vous discutez sur le Kriyat Shema du soir. Le Kriyat Shema du matin déjà est arrivé. Mais là, c'est le... C'est notre situation actuelle. Voilà, c'est ta raison. Okay. Madoua a séné. Okay. Et alors, très respectueusement, nous disons à nos maîtres, vous savez, on a changé l'époque, le septième heure du matin est arrivé. Vous discutez encore du septième heure du soir. Vous avez compris le problème. Mm-hmm. Bon. Alors, qui c'est qui a, tu as vu, à noter la servie binale et après une baignon venaïa. Après, en plein minuit, le coq, il sait que le jour est là. Oui. Alors que les autres, ils ne voient pas. Anoten la servi binal a pris une baignon ou ben laïla. Quelle est cette intelligence de distinguer entre le jour et la nuit? C'est quand il fait pleine nuit et qu'on voit le jour, c'est ça l'intelligence du coq. Vous avez compris? Il est possible que le coq soit français. Vous savez pourquoi ils ont pris ça comme. Bon. Alors les Français sont arrivés en Israël et ça bouge. Bon. Il y a de la coquetterie. Bon, alors, nous allons donc nous poser la question suivante. Pourquoi la Torah n'a été donnée que quand Israël est sorti d'Égypte? Vous voyez comment c'est relié aux études et que nous avons eues avec la Haggadah et que vous avez avec Michel Frère. Okay. Alors là, voilà comment je vais procéder. Et en lisant et en traduisant, et c'est vous qui allez dire qu'il y a une question qu'il faut...